Donc là, on montre au réalisateur. Donc nous, on se marre un peu entre nous, tu vois. Et le réal, il fait, c'est parce qu'il a pété là? Je fais, ouais. Il fait, génial, tu gardes ça.
Si ça se trouve, vous l'avez déjà expliqué, mais pourquoi on est ici exactement?
Vous êtes ici parce que vous êtes les meilleurs parmi les meilleurs.
Simply the best town, 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 town.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du meilleur podcast. Le meilleur podcast, le podcast où on parle des meilleures choses avec les meilleurs invités. Je m'appelle Cyrus.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission. Je suis Tom. Aujourd'hui, on va faire un petit retour en enfance. On va parler dessins animés, on va parler camions de Pizza Planet, on va parler des films Pixar.
Et pour parler de ça avec nous, on a des invités de qualité.
Bah oui, parce qu'on était que tous les deux, la discussion sera un peu plus
bien
courte.
Bien sûr. On est avec Nico Pratt.
Bonjour.
Enchanté.
Merci de m'avoir invité.
Bah, merci d'être venu. Est-ce que tu peux te présenter très rapidement?
Je m'appelle Nico, j'ai 33 ans, je suis journaliste, plutôt consacré à ce qu'on appelle communément la pop culture. Voilà, donc cinéma, musique, jeux vidéo, et je travaille à la télévision et dans la presse.
J'en mets. Merci beaucoup d'être là.
Bah, de rien.
Et on reçoit également Marc Hervouet. Merci Marc d'être avec nous.
Bah, merci à vous de m'avoir invité.
C'est un grand plaisir de t'avoir autour de nous. Est-ce que tu peux dire un petit peu aux gens qui tu es et surtout le métier que tu fais?
Ouais, bien sûr. Donc moi je m'appelle Marc, j'ai 30 ans et je suis animateur 3D. Donc je poste dans la boîte qui fait les mignons, moi moche et méchant, tout ça, qui s'appelle Illumination MacGuff. Vous avez sûrement dû voir des films, mais ouais, on est plutôt dans le
ça
thème.
Ça a pas trop mal marché, je crois.
Voilà, ouais. Je crois qu'on est bon, ouais. du coup, voilà, donc... Je suis là en plus pour partager ça avec vous, cette petite patte artistique.
Parfait. On adore, la patte de l'expert, comme on l'appelle.
Et avant de passer à la suite, est-ce que tu n'aurais pas un petit truc à nous partager, Tom? Est-ce que c'est pas le moment de l'édito de Tom? Est-ce que c'est pas l'éditom, tout simplement?
Pixar, c'est une vraie source d'inspiration pour moi. J'ai baigné dans les films du studio depuis toujours et chacun a une résonance très particulière en moi. Des valeurs que ces dessins animés m'ont inculquées à leur humour si particulier que j'ai tenté d'adopter. Je crois que, putain, mais comment les voitures de Cars, elles font pour changer une ampoule? Elles ont des roues, pas des mains. Pardon, parce que en fait, je dois vous expliquer un truc, c'est que comme tout fan de Disney, je tente de refouler les questions de bon sens qui me traversent quand je regarde un de leurs films et que je tombe sur une énorme incohérence. Mais voilà, désolé, je vais prendre sur moi et je vais essayer de me canaliser un peu. Donc je disais que Pixar a littéralement changé ma vie. Hein. Je me suis mis à trier mes déchets quand j'ai vu Wall-E. J'ai appris à cuisiner quand j'ai vu Ratatouille. Je me suis fait une coloration rousse.
Quand t'as vu Rebelle?
Non, c'était juste ma période Mylène Farmer, ça n'a pas de rapport, effectivement. Et donc j'ai aussi changé, car putain, mais ils foutent quoi dans leur argent, les nains dans Blanche-Neige? Ils bossent dans une mine de diamants et ils vivent comme des clochards. Pardon, je m'emporte. Mais Pixar, c'est surtout une école de la vie hein, qui nous transmet des savoirs inestimables. Hein. Grâce aux Indestructibles, par exemple, on sait tous qu'il ne faut surtout pas porter de cap. Et c'est en voyant Vice-Versa que j'ai compris que mes souvenirs tristes pouvaient aussi me rendre heureux. Toy Story, ça m'a appris que l'amitié entre un cow-boy et un cosmonaute était possible, et même dans les Village People, ça s'était jamais vu. Et Mille et une pattes m'a aussi appris que Dingo et Pluto sont des chiens tous les deux. Alors pourquoi Dingo a des habits et pas Pluto? Bon, je crois que cet éditum est trop éprouvant pour moi et je vais l'écourter. Pour faire simple, Disney et Pixar ont marqué ma vie à jamais. Toy Story est peut-être l'œuvre cinématographique qui m'a le plus chamboulé. Et Le Voyage d'Arlo représente peut-être les 94 minutes les moins bien utilisées de ma vie. Mais bon, ça c'est sûrement que mon avis et donc je voulais avoir le vote, chers invités. C'est quoi le premier dessin animé qui vous a vraiment marqué dans votre vie, Nico?
Le tout premier, c'est marrant que tu parles de Disney parce qu'au final on pourrait penser que c'est un Disney et en fait non, c'est l'œuvre de Don Bluth. C'est-à-dire, j'aurais du mal à dire si c'est Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles ou le premier Fievel.
Ok.
C'est l'un des deux. J'ai souvenir de moments de terreur absolue devant Fievel, qui est quand même parce que le dessin est quand même particulièrement sombre.
Moi, je
sombre.
Vois pas du tout ce que c'est Fievel.
Le 1.
Fievel, le premier Fievel, on oublie Fievel au Far West.
Ah, moi je
Fievel.
Le préfère, je crois, mais je l'ai vu avant le premier, du coup c'est plus lié à l'affect.
Ouais, il y a forcément
c'est
de l'affect.
Fievel,
Fievel, en fait, c'est l'œuvre d'un homme qui s'appelle Don Bluth, qui est un ancien de chez Disney et qui a quitté Disney pour aller monter donc son propre studio et qui a collaboré avec Steven Spielberg sur plusieurs films, entre autres sur ce film qui est l'histoire d'une petite souris et de sa famille souris qui part en fait en Amérique. Tout simplement, parce
genre
qu'en Amérique, il n'y a
Kittle.
Pas de chat. Un peu pas du tout comme Stuart Little.
Okay. C'est plus triste, hein, c'est une allégorie aussi à l'immigration des peuples.
C'est une allégorie, exactement. Ouais, Fievel, c'était le vrai prénom du papa, du grand-père de Steven Spielberg.
D'accord, okay.
Voilà, c'est pas forcément que pour les enfants.
Okay.
Vraiment. Et donc, je pense que c'est celui-là. Et puis, le petit dinosaure et la Vallée des Merveilles. Et la scène du, désolé pour le spoiler, du décès de la maman. Qui, même à l'âge adulte, est quand même un peu compliqué. on va dire.
Marc, c'est quoi toi le dessin animé qui a vraiment marqué un tournant dans ta vie?
Ah, marrant ça. Marc, marqué.
Yes. Allez. On est sur un truc. Allez. Ouais, pas mal.
Allez.
vraiment le dessin animé qui a été moi, important pour toi.
Bah, c'est un grand classique, hein, mais c'est le Roi Lion, je pense. Parce que j'étais assez grand pour comprendre déjà des choses et donc vivre beaucoup d'émotions. Donc tu te marres évidemment, mais t'es aussi très triste. Et je pense que c'était la première fois que j'avais ce petit mélange d'émotions assez complet sur un film entier. Et tu ressors de là, t'es bouleversé. Il faut que ça fasse partie de ta vie. Tu vois, on est à l'époque où en plus il fallait le jouer, le jeu vidéo, la peluche, le truc.
Les années 90 en termes d'animation, c'était c'est la grande époque Disney, c'est la naissance de Pixar, c'est la Game Boy et les premières consoles de salon.
Exactement. Donc il y a un petit côté Madeleine de Proust aussi, et ouais, forcément.
Le Roi Lion.
Le Roi Lion.
Super, on a des réponses originales.
Exactement.
Et c'est fou, juste rebondis, moi, c'est fou, en fait, je me rends compte comme nos souvenirs et les trucs qui nous marquent sont tellement conditionnés par les choix bons ou mauvais de nos darons. Genre, moi, j'ai jamais eu la cassette du Roi Lion, tu vois.
Moi non plus.
Et du coup, ça m'a jamais marqué de ouf, quoi.
Et ben, moi, je l'ai vu au cinéma, j'ai souvenir du cinéma, et après, je l'ai revu plus tard, tu vois. Genre, chez des amis et tout. Je l'ai même pas revu chez moi. C'est juste, je sais le souvenir que j'ai. Alors, vrai ou pas, tu vois, faut souvenir, machin, c'est pas du tout le débat. Mais du coup, je me suis construit quand même un souvenir fort avec ça, juste par le cinéma, en étant, j'avais 6 ans, je crois, 94.
Cyrus, ton dessin animé.
Moi, c'est pareil, c'est le Roi Lion. Je l'ai pas vu au ciné, mais j'avais la cassette, par contre. Ah. Et la cassette, je l'ai poncée. C'est-à-dire que j'arrivais à la fin, je disais stop, rembobinage. Et je revenais au début. Et vraiment, c'était en boucle. Tous les jours, genre mes parents devenaient ouf, tu vois, genre j'imitais Simba, tu vois, genre une fois que ça s'arrêtait,
on va manger. Chant du début 10 fois par jour, ouais, mais... tu pètes un câble.
Ah, j'étais à fond, tu sais. Et genre vraiment, tu sais, je me promenais à quatre pattes chez moi en faisant.
Ouais, normal. Enfin,
j'étais vraiment, j'étais lobotomisé par le royaume, quoi.
Est-ce que tu faisais une avance rapide au moment de la mort de Mufasa ou pas?
Ah non, non.
Faut
respecter. Faut respecter, non, non, c'était ouf.
Ah, et puis la musique aussi, tellement marquante.
Non, c'était incroyable. Enfin, ce film est incroyable. C'est quoi ton film préféré, toi?
Moi, celui qui m'a le plus marqué, je pense que c'est Aladdin. Que j'ai vu dans les premiers, pareil, les chansons, enfin, l'humour du génie et tout, je trouvais ça dingue. Et... ouais, c'est ce qui m'a le plus marqué. Je trouve qu'il y avait tellement d'idées, enfin, le moment où il rentre vraiment dans la caverne et tout, ça devient complètement fou, ça part dans tous les sens.
Et c'était l'un des meilleurs jeux dispo sur Super NES.
Ouais, carrément.
Il était génial.
C'est pas forcément une opinion très populaire, mais c'est l'un des jeux pour moi emblématiques de la Super Nintendo.
Ouais, carrément. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Marc, je voulais te poser 2-3 petites questions. Beaucoup de gens qui nous écoutent, et nous, on est surtout des consommateurs de dessins animés. Toi, t'es un artisan de l'autre côté, c'est quelqu'un qui va dessiner et animer. Est-ce que tu peux essayer d'expliquer simplement ton métier, de quoi il se compose et quel est ton
rôle
exactement?
Et le process autour de la création, comment ça marche, quoi?
Alors, le process, il est hyper long et implique beaucoup de métiers, en fait. Parce qu'on est vraiment sur construire donc une histoire, évidemment, ça c'est comme tous les films. Mais après, il faut mettre en image. Donc pour ça, c'est vrai que ça demande vraiment une palette d'artistes complète. Donc ça va du design jusqu'à le gars qui va modéliser le personnage, quelqu'un qui va le peindre, en gros, quelqu'un qui va lui mettre des os dedans pour faire une marionnette. Après, moi, je suis là en animation, donc moi, je vais le faire bouger. Il y en a qui vont mettre de la lumière, qui vont faire des rendus de tout ça, des effets spéciaux, etc. Donc c'est vrai que le process, il peut être très très long à expliquer. C'est vraiment énormément de choses.
C'est très segmenté, en fait.
Très segmenté, ouais, c'est ça, ouais. C'est qu'on part avec tous des bagages un petit peu généraux, et après, on va se segmenter sur des trucs qui nous plaisent plus ou moins. Donc moi, pour le coup, c'était l'animation.
Genre, le matin, t'arrives, tu prends quoi comme info, et qu'est-ce que tu dois produire à la fin de la journée?
Bah, en fait, nous, en animation, on est attribué sur un plan. Donc, on a une date, une deadline pour faire ce plan-là. Donc, nous, tout de suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir donc, à quel personnage c'est, dans quel contexte c'est, donc la séquence, etc. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les personnages sont tristes, joyeux? Est-ce qu'ils courent? Qu'est-ce qui se passe dans la scène? Et on a un son, donc souvent le son de l'acteur qui a enregistré ça. Et on doit en gros prendre les personnages virtuels et leur faire jouer la comédie. Donc on n'est pas du tout comédien, nous, mais par contre on fait jouer la comédie à des personnages virtuels. Donc pour ça, il faut être crédible le plus possible. Faut avoir des notions de ce qu'on appelle body mechanics, donc vraiment les notions de poids, de gravité, d'inertie, toutes ces choses-là, en fait, pour que le personnage soit ancré physiquement chez les gens et que le cerveau il fasse pas oh là, c'est quoi ce truc bizarre, faut que ce soit crédible quoi. Donc plus des couches après d'acting, etc. Pour vraiment transmettre les émotions quoi.
Et alors j'ai une question qui peut paraître complètement bête, mais est-ce que c'est toi par exemple qui décides, on voit par exemple comment il s'appelle le méchant, c'est Groot.
Groot.
Groot c'est un autre.
Groot c'est l'autre, pardon.
Ils sont pas faits, ils sont pas faits du même bois.
Si, oh. Est-ce que toi tu peux, est-ce que toi t'as la liberté de décider que par exemple à un moment il va se gratter la tête en marchant, ou est-ce que tout est contrôlé?
Alors oui et non, c'est-à-dire qu'en fait à chaque fois en début de plan on a un brief du réalisateur. Donc lui va nous dire ses intentions, qu'est-ce qu'il faut transmettre, qu'est-ce qu'il faut, quel but de la scène. Donc il va nous aiguiller sur ça en fait. Mm-hmm. Après derrière on en discute. Et d'un coup, tu peux te dire, tiens, je vais lui faire faire ça parce que... Enfin, tout doit avoir une raison, en fait. Donc, s'il se gratte la tête, ouais, parce qu'à un moment, il cherche un truc et tiens, je vais proposer ça. Ouais. Donc là, on va pouvoir proposer à la première étape de l'animation, ce qui s'appelle le blocking. Donc, c'est vraiment les post-créés qui racontent l'histoire et qui vendent, en gros, l'idée. Et là, on va pouvoir proposer des idées, proposer des choses. Et après, ça se refine petit à petit. Donc, soit il y a des choses qui sont gardées parce que l'idée était intéressante... Ou soit, on recommence, fait autre chose parce que ça marche pas. Quoi.
Ouais. Et on vous attribue des plans ou des personnages?
Des plans.
Des plans, d'accord.
Ouais, je sais qu'il y a des studios qui, pendant un temps, faisaient les personnages. Mm-hmm. Genre, je pensais à DreamWorks, sur Shrek, par exemple, il y avait une équipe pour Chaboté, une équipe pour Shrek, etc. Et nous, on fait vraiment au plan.
D'accord.
Donc ça nous permet aussi de toucher à plein de personnages, c'est plutôt intéressant.
Toi, par exemple, donc là, le dernier gros projet sur lequel tu as travaillé, c'est Comme des bêtes 2.
Ouais, c'est ça, ouais.
Par exemple, tu peux nous donner un exemple concret de scène ou de plan que tu as animé, sur lequel tu as travaillé, et une problématique à laquelle tu as été confronté, par exemple?
Moi, j'ai eu beaucoup de...
Et après, on va voir si on va garder ton CV et on te rappellera du coup.
Ouais,
ouais,
ça marche.
Super, ça marche.
Et trois qualités, trois défauts. Ouais. Merci.
Moi, j'ai eu beaucoup de plans d'action. Parce qu'en fait, donc c'était ma première expérience en tant qu'animation de personnage main. Donc là, on est sur les acteurs principaux. Parce qu'avant, je faisais les figurants, tu vois, en gros. Donc
et on a tous commencé comme ça, ok ? Ouais.
Voilà, c'est ça.
Moi, j'animais des arbres avant.
Voilà. Putain, top.
Moi, j'étais figurant dans les vidéos de Cyrus au tout début. J'étais à poil dans des tonneaux. Donc, du coup,
c'est vrai, hein, c'est véridique.
Tous commençaient comme ça.
Ça, j'aimerais bien voir ça. Ouais.
Yes. Dispo sur YouTube.
Ouais. Et du coup, c'était ma première expérience en main, donc je ne savais pas trop ce que je valais. Et tout de suite, j'ai été pris à faire des plans d'action. Et ils ont vu que c'était le truc avec lequel j'étais un peu plus à l'aise. Donc ils m'ont mis beaucoup de choses comme ça, et je me suis retrouvé en fait avec des contraintes en permanence de... Ce qui fait aussi ce que j'adore ce métier, c'est que chaque nouveau plan, c'est des nouvelles problématiques. C'est des nouvelles choses qu'on n'a jamais fait avant. Donc faire courir un chien poursuivi par des loups sur un train qui roule, une caméra qui est folle.
T'avais jamais fait ça?
Bah non, bizarrement non.
Non, c'est basique, hein, c'est vraiment...
Bah, t'as pas été en sixième ou quoi? Parce que on a tous ces cours, Marc. Hein.
Et il y a des trucs que tu ne sais pas faire, ou est-ce qu'un animateur est censé pouvoir animer aussi bien un personnage que des feuilles ou les poils d'un chien?
Eh ben en fait, on sait qu'on sait rien faire et on doit tout faire. En fait, je sais pas si
ça que t'apprends consciemment.
Ouais, c'est ça. C'est que voilà, demain j'ai un plan où c'est une feuille qui doit être triste et elle a pas de visage. Comment je le fais? Je me pose les questions de comment faire ça. je trouverai.
Là comme ça.
Regardez, je vous imite le truc. Hein.
Il le mime hyper bien.
Ne pleure pas, Tom. Donc voilà, je vais pouvoir trouver des solutions avec ça, ou alors si c'est, je sais pas, une armée de Vikings. Qui envahit Napoléon, je n'en sais rien, sur un Drakkar, hein, bien sûr.
Le Paris Drakkar, je
crois. Le ouais. Paris Drakkar.
Historiquement, voilà. Ça tient.
Donc, ouais. C'est juste se poser des questions, et après, les principes d'animation restent les mêmes, que tu animes tout ou n'importe quoi.
Nico,
ouais.
Pour toi, c'est quoi qui fait vraiment cette particularité de Pixar aujourd'hui dans le paysage des films d'animation, et qui différencie Pixar, par exemple, d'un DreamWorks ou d'un Illumination, ou même des productions de Disney? Comme ouais. Vraiment ceux qui sont 100% Disney, type Zootopie, Monde de Ralph, La Reine des Neiges. Qu'est-ce qui fait que Pixar aujourd'hui a une place un peu à part, et déjà si t'es d'accord avec ça ou pas, aujourd'hui dans le monde du cinéma et de l'animation?
Alors je pense que Pixar n'a malheureusement plus tellement une place à part. Mais alors, déjà pour commencer par les qualités, ça paraît être il y a une éternité, on l'oublie facilement, mais Pixar c'est le tout premier long métrage. En 3D,
ouais.
En 3D créé sur ordinateur, ça paraît. Non, mais ça paraît dingue.
Fait à la main,
on est habitué
vraiment,
aujourd'hui. Il y en a trois qui sortent par an. On est complètement habitué.
Ouais.
Toy Story, on était Toy Story, c'était une prouesse technique. On
c'est
était
que
pas
du programme, c'est que de la programmation, voilà, que des choses pas artistiques faciles à appréhender en fait.
Voilà, exactement.
Du technique quoi. C'est
exactement. Et c'était pas du tout garanti que les gens suivent, que les gens aient envie de voir ça, aient envie de voir cette matière, ces textures. C'est en gros, c'est, ils ont créé des nouveaux codes. Voilà. Et pendant longtemps, ils ont eu le feu sacré, c'est-à-dire qu'ils ont enchaîné les cartons, ils ont enchaîné les succès, ils faisaient pas de suite, ils soignaient chaque film comme si c'était le dernier, ils laissaient place aux auteurs. Voilà, et ça a un peu changé. Avec le rachat de Disney, pas forcément, mais mine de rien, les dates collent quand même.
Ouais.
Ils ont commencé à faire des suites à Cars, par exemple, alors que Cars avait moins marché que certains Pixar, mais parce
c'est
que
juste pour vendre des jouets,
les gamins s'arrachaient les poupées, les poupées McQueen, quoi. Donc finalement, aujourd'hui, Pixar, je ne pense pas qu'ils aient gardé leur place à part, puisque en effet, de l'animation, il y en a partout, et que certains comme Zootopie par exemple sont meilleurs que par exemple un Voyage d'Arlo.
Oui.
On va le dire, le Voyage d'Arlo. Qui est quand
mais
même
je pense que même Le Juge est une femme épisode 23 est mieux que Le Voyage d'Arlo. Hein, bah.
Le Voyage d'Arlo est une bonne grosse déception. Le Voyage
je
d'Arlo
pas
est
ce que c'est moi.
C'est un film malade dans sa fabrication. C'est un film qu'ils ont fait trois fois.
Le pitch est intéressant. Le pitch, ça raconte un monde parallèle où la météorite n'a pas frappé le monde au moment où il y avait les dinosaures.
Ouais.
Du coup, les dinosaures ont fait leur vie et c'est les dinosaures qui asservissent plus ou moins les humains comme des animaux de compagnie.
La bande-annonce était fantastique.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il y avait une comète qui s'approchait de la Terre et d'un seul coup. Et d'un seul coup, en fait, on voyait les dinosaures qui levaient la tête et la comète qui fait fou, qui passe juste à côté. Et ça, la promesse était belle. Mais non, du coup, ils ont plus tellement cette place à part. Et en même temps, qui ose faire un vice-versa? Qui ose faire un Wall-E? On aura l'occasion d'en parler, mais c'est absolument unique, c'est absolument prodigieux en termes d'animation. Je te laisserai en parler, t'en parleras mieux que moi, mais en termes d'écriture, en termes d'audace, mine de rien, c'est les seuls à oser faire ces choses là quoi. La Reine des Neiges par exemple, qui est un Disney, moi je pense que c'est un très bon film, mais c'est très classique.
Ouais, bien sûr.
Wall-E n'a rien de classique. Wall-E, je peux encore le regarder aujourd'hui et me
grosse
dire, putain,
prise de risque.
Mais comment ils ont fait?
Bah c'est ça, raconter des choses avec tout et n'importe quoi en fait. On parlait d'une feuille tout à l'heure.
Ouais.
Tu mets à Pixar, tenez, c'est l'histoire d'une feuille. Ils te font rire, ils te font pleurer pendant 1h30 et tu comprends pas pourquoi.
Je crois qu'ils te font bander aussi.
Vice versa. Vice versa, c'est un film sur des émotions. C'est un concept absolument mortel, mais une fois que t'as le concept, une fois que t'as cette idée là. Bah tu fais quoi?
Qu'est-ce qu'on raconte comme histoire?
C'est mille idées à la seconde.
J'ai envie de changer
de Pixar. J'avais pas dit qu'elle était mon Pixar préféré, j'ai déjà envie de changer.
Il y a une stat un peu, j'ai noté, qui illustre un peu ça. Je vous conseille d'ailleurs une vidéo que je vais mettre en description, que j'ai vue en préparant cette émission, qui est hyper intéressante, qui s'appelle Is Pixar Dead, et qui du coup explique en 20 minutes comment le studio a réussi à tout dépasser très vite, et que effectivement depuis 6-7 ans, il se repose un peu sur ses acquis, et il fait beaucoup de sequels, etc. Très intéressant, je vous mettrai en description. Et sur la vingtaine des films Pixar qui sont sortis, les 10 premier film, il y a eu un sequel, c'est Toy Story 2. Et les 10 derniers films, il y a eu 6 sequels.
Ouais. Faut pas forcément taper sur les suites. Toy Story 3 est un chef-d'œuvre.
Hein.
Et le 4, a priori, il n'y a pas de raison pour que
je sois d'accord. Mais Monstres et Compagnie n'est pas ouf le 2.
Ah, moi j'ai bien aimé.
Université.
Il raconte pas grand-chose.
Le voyage de Dory, le monde
de
Dory.
Ouais, mais il est marrant.
Un peu inutile.
Cars 2, Cars 3. Planes, est-ce qu'on va faire comme si Planes n'avait pas existé?
Non, on a dit qu'on n'en parlait pas. Voilà. Marc, du coup, on l'a vaguement évoqué. C'est quoi pour toi, du coup, cette patte Pixar? Ce que Pixar a réussi à mettre dans ses films et
moi,
que...
je suis assez d'accord, en fait, sur le fait que c'est dur de le mettre un piédestal aussi haut qu'ils étaient, en fait, avant. Parce que derrière, il y a des productions comme La Dragon 3, par exemple, qui est sortie il n'y a pas longtemps, qui fait une conclusion absolument géniale à cet univers qui n'est pas Pixar, du coup, c'est vraiment DreamWorks. Par contre, moi, ce que j'aime bien chez Pixar aussi, c'est qu'il y a quand même une constance de qualité. C'est toujours repousser artistiquement, techniquement, trouver des nouvelles choses et être à la pointe vraiment de la technologie à chaque fois. Et ça, même sur les suites qu'on trouve un peu pourries, et ben, y a quand même à chaque fois quelque chose qui marche. L'histoire marche, le truc. Il y a des choses qui nous gênent, mais quand même, c'est une constance de qualité. Que pour revenir à DreamWorks, par exemple, quand tu as un Trogs, un, en route des films comme ça. Tu fais, mais vous allez où, les gars?
Enfin, c'est quoi, pas possible. Pardon, c'est quoi Trogs projet, quoi.
Trogs, par contre.
Trolls. Qui reprenait les petites figurines avec les cheveux là, qu'il y avait dans les années 80.
Non, il y a un film là-dessus.
Ouais.
Bah, tu vois, par exemple, voilà.
Justin Timberlake, je crois, qui fait
la musique. C'est ça. Ouais. On est sur du
lourd.
Mais
du lourd.
Moi, j'ai une question par rapport à Pixar, à l'animation, etc. Est-ce que ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est pas beaucoup plus le storytelling et en fait l'écriture plutôt que l'animation? Est-ce qu'il y a une animation propre à Pixar ou pas du tout?
Je pense pas. Je pense pas comme ça, mais c'est vraiment comment justement transmettre encore une fois les émotions, mais par l'écriture, effectivement. Okay. Ça, c'est hyper important. Et derrière, justement, niveau compétences techniques et artistiques, on est sur les meilleurs, quoi, clairement. Donc, ils arrivent à transmettre ces petits trucs-là.
D'accord, mais tout se joue à l'écriture, quoi.
Ouais. Okay. Pour moi, c'est ce qui fait clairement la force de Pixar, c'est ça, quoi.
Et puis, c'est aussi quand même, c'est aussi ce qui fait la force normalement d'un bon film,
de n'importe quel film.
Vous êtes rien sans le scénario, et si le scénario est naze, le film sera.
C'est ça.
Le film sera naze, et si le scénario est bon, le film sera peut-être naze, mais au moins t'as un bon scénario.
Alors après, il y a des bons contre-exemples, hein, je trouve, genre Avatar par exemple. Avatar, citez-moi un nom d'un perso d'Avatar.
Sigourney Weaver.
Jake Sully.
Et Frank Dubosc, qui joue le méchant d'ailleurs.
Ouais, voilà, bien fait.
Non, mais faut aller chercher, tu vois ce que je veux dire.
Faut voir sur quoi on s'entend sur un bon scénario. C'est-à-dire que Avatar, en gros, c'est les cowboys et les indiens. C'est-à-dire, c'est une histoire qu'on a déjà vue mille fois, qui a déjà été racontée mille fois, avec un petit twist écolo.
C'est Pocahontas, on peut dire.
Oui, voilà, c'est ça. En gros, c'est Pocahontas. Mais c'est une bonne histoire. C'est-à-dire, quand je dis bon scénario, bonne histoire, déjà, je ne devrais pas dire bon scénario, c'est juste vraiment bonne histoire.
Okay.
Et ce n'est pas forcément du nouveau. Finalement, Star Wars, on aime les films, c'est toujours les mêmes. C'est toujours un orphelin dans le désert qui part à la rencontre.
C'est un mythe grec, c'est la
théorie. En gros, c'est Joseph Campbell, c'est le héros au mille et un visages.
Le voyage du héros.
Exactement.
Hamlet. Je vais me dropper une ref aussi. Je ne savais pas du tout. J'étais un peu frustré, vous en avez tous dit.
Julie Lescaut.
Voilà, en fait, très rapidement, et je le dis aussi pour les auditeurs, Joseph Campbell est donc un philosophe qui a imaginé la théorie du monomythe et qui dit qu'en fait, le voyage du héros, d'un héros ou d'une héroïne est toujours le même. C'est-à-dire, je vous la fais courte, mais il part d'un environnement, son environnement, il y a quelqu'un qui vient à sa rencontre, qui lui expose une menace, il doit donc quitter son environnement, ensuite il doit... En gros, c'est le parcours du héros. Et il a théorisé donc ceci dans un livre qui s'appelle Le héros aux mille et un visages. Et en gros, c'est Star Wars, c'est Indiana Jones, c'est tous les Marvel, voilà, exactement.
Et même des films plus lambda, une comédie romantique, un truc, il y a plein de choses en fait qui rentrent dans ce truc là.
C'est la théorie du monomythe et
c'est un schéma de scénario, quoi.
Cyrus,
ouais,
je te propose de lancer le débat et que tu nous parles de ton meilleur Pixar.
Ok, mais alors donc
moi
j'aimerais bien que juste avant on pose la question de qu'est-ce qui fait un bon film d'animation,
un bon film d'animation et un bon Pixar. Parce qu'on se met d'accord sur le meilleur Pixar aujourd'hui.
Ouais.
Je pense que l'univers est assez grand et large pour se dire qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on aime bien ou pas un film Pixar comparé à un autre.
Alors Tom, selon toi, qu'est-ce qui fait un bon Pixar ?
Selon moi, c'est l'histoire. On l'a dit, c'est un peu obvious comme réponse, mais au final, c'est réussir à chaque fois. Et ça va être dur de ne pas citer celui que je considère comme le meilleur aujourd'hui. Mais ce que je trouve fort dans chacun des Pixar, c'est de mêler toutes ces couches de messages différents et d'émotions différentes qui, au final, forment un tout hyper cohérent. Il y a toujours une histoire qui est assez simple avec des personnages auxquels on peut s'identifier assez rapidement qui permettent vraiment de vivre, de ressentir ce que vit la personne et d'assimiler nos sentiments, que ce soit la solitude, la recherche d'amitié, etc., etc. Il y a toujours une couche avec une lecture, un message un peu plus profond, que ce soit l'écologie avec Wall-E, que ce soit l'accomplissement et la recherche de l'amitié avec Toy Story, que ce soit une forme de critique un peu du capitalisme avec Monstres et compagnie. Je trouve que c'est assez fort d'apporter cette touche aussi à chaque fois, et que ce soit en fait les rebondissements. Et c'est là où les premiers Pixar sont très forts, c'est que si on se focus sur les besoins, les envies et les motivations du héros au début du film, elles évoluent. Dans Toy Story, Woody, ce qu'il recherche au début n'est plus du tout la même chose que ce qu'il cherche à la fin, et tu le suis à travers ce cheminement. Là où les derniers, par exemple Coco, que j'ai adoré, mais je trouve que ça évolue un peu moins et la progression est un peu plus linéaire. C'est un débat qu'on ouvrira ou pas après, mais c'est vraiment la richesse scénaristique, les rebondissements et ensuite le travail sur les détails, que ce soit les personnages secondaires, les répliques, les petits indices par-ci par-là, les vannes de second plan que tu vois qu'au troisième visionnage, je trouve que c'est hyper riche. Et voilà, moi c'est ce mélange entre effectivement structure narrative, message et humour, je pense.
Bah écoute, moi j'ai adoré StedX. Je pense que c'était un super moment.
Est-ce que il y a un DVD, bouquin, le, DVD, okay. Le DVD va sortir au, à Alban Lafont, les éditions.
Ok.
Voilà.
Ça marche. Bah, merci beaucoup.
Pas de soucis, c'est un plaisir.
Ouais. Et ben c'était une belle émission.
Non mais voilà, effectivement, mais... c'est un peu la synthèse de tout ce qu'on s'est dit.
Ouais, totalement, alors ouais, mais totalement. Si je peux être un petit peu le caillou dans la chaussure, c'est marrant parce que ce que tu dis là, en fait, peut aussi
le serpent dans la botte.
Non mais le serpent dans la botte, exactement. Ce que tu dis là s'applique aussi à des dessins animés non Pixar, et malgré tout, en fait, il y a ce truc en plus. En fait, si tu m'avais posé la question pour le coup, qu'est-ce qui fait un bon Pixar ?
Je te pose la question.
J'en sais rien. En vrai, j'en sais rien. C'est-à-dire que des beaux films bien animés avec un sous-texte riche, des beaux personnages.
Il y en a plein.
Il y en a plein. Il y en a plein. Et pourtant, Pixar réussit avec Vice Versa, avec Toy Story, avec Coco, je trouve personnellement. Échoue parfois, mais pourtant, Pixar réussit quelque chose d'unique. Qu'au final, je serais bien incapable nommer au final.
Si je parlais juste en tant que sensation, j'ai l'impression que s'ils vont toucher un petit endroit,
ouais,
mais un endroit qu'on sait pas,
ouais, que les autres ils touchent pas trop, tu vois, ils vont toucher dans ton cœur, tu vois,
une fibre que tu t'attendais pas du tout à ça,
ouais, et que tu
existes, je ressens cette émotion, okay.
Et que tu laisses à. Il y a peu de gens qui ont accès à cet endroit-là, tu vois.
C'est comme si, en fait, très, très souvent, les films nous parlent au cœur et on aime sans forcément se poser la question. Il y a très souvent, les films nous triturent un peu les méninges et eux, c'est comme s'ils arrivaient à faire les deux en même temps. C'est-à-dire que ça parle en même temps au cœur et au cerveau. Je prends par exemple l'exemple de Vice Versa. C'est-à-dire qu'on va être ému par l'histoire tout en même temps en se disant « Putain, comment ils ont mis en image un truc pareil ?» Les souvenirs. Comment tu filmes un souvenir ?
Du coup, Cyrus, maintenant qu'on a un peu déblayé ce terrain-là, est-ce que tu veux sauter les deux pieds sur la table de ce studio et nous dire quel est le meilleur Pixar selon toi et pourquoi ?
Alors, c'est un choix très difficile, Tom.
Oui.
C'est un choix très, très difficile. Aujourd'hui, je ne me suis pas...
Tu m'as même dit que tu préférais choisir entre ton père et ta mère.
Ouais.
Tu m'as dit.
Ouais,
j'ai dit non,
facile.
Quand même.
Non, mais ça, c'est hyper facile. Non. C'est pas vrai, maman. Si
il y en a un qui est mort, c'est pour ça.
Non, les deux sont en vie et tout. Maman, je t'embrasse très fort. Non, en gros, je pense que. Choix difficile. Je t'ai dit, genre, il y en avait deux qui étaient sur ma shortlist. Pour moi, je crois que c'est Toy Story.
C'est le premier ?
Ouais. C'est Toy Story. Alors, l'histoire, on la connaît. Elle est efficace.
Est-ce qu'on la raconte ? Tu l'as
pitché. Touché. Mais non, mais c'est ça qui est horrible, c'est que je suis même pas sûr d'être capable de te la pitcher, parce que elle m'a marqué, mais pas tant que ça au final, et je l'ai pas revu, donc voilà, j'ai oublié. Mais ça reste le premier film Pixar, ça reste le premier film qui a la prouesse technique dont on parlait tout à l'heure, ça reste là où ils ont dit ok, en fait nous on est ça. Je trouve que c'est un film qui représente vachement leur identité, ce qu'ils sont capables de faire, et pour moi, vu que tous les films sont très proches en termes de niveau, pour moi c'est ces arguments-là qui ont fait que ok, bah en fait c'est le meilleur Pixar, parce que c'est celui qui a créé Pixar.
Et puis c'est un concept aussi, on l'a pas dit, Pixar c'est aussi des super high concept, c'est-à-dire quand vous avez le dos tourné, vos jouets s'animent,
tout le monde va
rêver. Ça a dû niquer la tête d'un paquet d'enfants.
Mais moi j'avoue, en tant que gamin, moi je m'étais fait la réflexion déjà.
Vaguement, je pense moi aussi, mais pas avec une société aussi organisée, quoi.
Non, mais je me suis dit, je ferme cette boîte, putain, ça se trouve.
Ouais.
Ils discutent entre eux et tout, tu vois.
Et puis pour le coup, c'est une vraie métaphore de l'animation, quoi, parce que tous gamins, on a pris nos jouets, on a joué avec, tu vois. Et bah en fait, l'animation c'est exactement ça. Donc ils se sont dit, bah on prend ça, sauf on l'anime en vrai, en fait.
Ouais.
On anime vraiment nos jouets, quoi.
Marc, c'est quoi pour toi le meilleur Pixar ?
Moi, j'ai pas réfléchi longtemps, parce que c'était évident pour moi à la suite de son visionnage, c'est Coco.
Ah
ouais ?
Ok.
Tu parles du film avec Gad Elmaleh ?
Oui, tout à fait, ouais. Ouais.
Hyper bien animé d'ailleurs, Gad
Elmaleh.
Super bien,
alors,
hyper réaliste.
Petit aparté, ce film a une très bonne vanne.
Coco de Gad Elmaleh.
Très bonne vanne.
Est-ce
Coco.
Que c'est une vanne originale ou pas ?
Ah merde, attends, je suis en train de me dire que je confonds avec. Je me
avec
trompe
Chouchou.
De film.
Que
non,
des trucs
Coco,
comme ça,
non
en fait.
C'est Coco, c'est quand il prend l'ascenseur. et que l'ascenseur, quand son bureau est au dernier étage, et l'ascenseur lui dit « Vous êtes arrivé au top ». Et ça, je trouve que c'est une bonne vanne.
Mais elle est pas lui, je crois, c'est un peu.
Elle est peut-être pas lui. Pardon. Pas lui. On pourra peut-être couper ce passage. On vérifiera sur internet si c'est lui. Je t'en prie, pardon, Coco.
Ouais, donc Coco. Donc au-delà du forme.
Est-ce que tu peux juste en préambule comme ça, un film récent, peut-être des gens l'ont pas vu, juste raconter vite fait l'histoire sans spoiler, mais le synopsis.
Donc il est de 2017. Donc le synopsis, juste, c'est le petit. On suit le petit Miguel, qui est un petit enfant de, je sais pas, 11-12 ans, je pense, un truc comme ça, qui est passionné de musique et qui veut absolument être guitariste comme son idole Ernesto de la Cruz. Et du coup, il va tout faire pour faire de la musique, mais sa famille est totalement contre. Donc on a des raisons, c'est pas vraiment le pourquoi du comment précisément, mais on a tout ce truc-là de famille qui rejette un petit peu l'enfant artiste. Et un jour, il décide quand même de jouer de la musique. Et il se retrouve propulsé par magie dans le monde des morts.
Ça se passe au Mexique.
Et ça se passe donc au Mexique pendant le Dia de los Muertos. Et à tes souhaits. Et du coup, on va le suivre après dans le monde des morts. Il va retrouver la famille défunte. Il va se lier d'amitié avec un personnage qui vont devoir s'aider mutuellement.
Alors dans la famille défunte, vous préférez le père ou
la femme de corps, moi. voilà, en gros,
donc, une bonne femme de bière.
Voilà, c'est ça.
Donc voilà, après son but, il va devoir quitter le monde des morts et en même temps, ça va lui permettre aussi d'en apprendre beaucoup sur sa famille et sur des secrets, sur des choses. Voilà.
Et pourquoi c'est le meilleur ?
Déjà, tout simplement parce que c'est celui qui m'a tout de suite touché personnellement, que ce soit par la musique, parce que vu que je fais de la guitare, forcément, il y a un truc où tu ressors du cinéma, tu fais « Ok, je prends ma guitare, c'est quoi la partoche ?» Il y a forcément un gars qui l'a fait, tu vois.
Mexique, t'es mexicain aussi ?
Ouais. Absolument, absolument.
Et t'aimes le guacamole ?
Ouais,
moi, je pensais que t'allais me dire ça, vraiment. La pire raison.
T'es. Et les acras de morue, super. Ça n'a rien à voir. ouais, du coup, il y a ce côté-là un petit peu musical et pour une raison, c'est pas la Reine des Neiges à faire du Libéré, Délivré, tu vois. Il y a toutes les chansons ont un sens.
Alors, cette chanson est vachement bien. Je peux pas laisser dire du mal de Libéré, Délivré, qui est une excellente chanson dans le plus pur traditionnalisme Disney.
C'est vrai.
C'est vrai.
C'est vrai. Je peux pas te enlever.
Alors, Tom, les gens vont encore dire que je suis agressif et virulent. Parce que c'est un retour qui.
C'est pas vrai.
Non mais même moi je l'ai reçu d'une autre manière.
Disons que tu défends ton steak.
Voilà, je défends mon steak, mais c'est aussi le but de ce podcast. C'est,
c'est
dans la description.
C'est
il y a écrit
de plus être ami à
avec,
la fin.
Il y a écrit avec mauvaise foi et tout. Genre c'est dans le pitch quoi. Est-ce que tu trouves pas que la morale de Coco est nulle à chier dans le sens où.
Attention au spoil.
Ouais, ok.
Allez, jongle. Ouais, non, jongle si... avec ses tronçonneuses, vas-y.
Non, ok. La morale qui est que il ne faut pas oublier les gens qui sont morts. Et qui est que, genre, en gros. Vas-y, rappelle-toi toute ta vie des gens qui sont morts parce que si tu les oublies,
ils disparaissent
quoi. C'est pas une morale de merde.
C'est une morale peut-être de merde, mais le truc c'est que c'est quand même pour les enfants, tu vois. C'est pas
juste aux
enfants,
pour les enfants.
Quoi.
T'es genre, ah, si tu oublies grand-père, et ben il va mourir une seconde fois.
Tu l'as vu vieux. Je pense que quand t'es enfant, ça aussi, ça te crée un nouveau rapport à la mort qui est, je pense, doit être fort et doit être aussi. Ouais, mais c'est important.
Ouais, mais au lieu de délivrer justement, je suis plus culture bouddhiste, stoïcienne, etc. Machin. J'avoue, je préfère qu'on dise à l'enfant, il est mort, c'est la vie. C'était quelqu'un de cool. Maintenant, concentre-toi sur le présent. Tu vois.
Oui, mais ça, c'est une façon de voir les choses. C'est-à-dire que l'autre façon de voir les choses, c'est de dire sois pas triste, puisqu'il n'est pas vraiment mort. Il vit sa vie au royaume des morts.
Proposer une vision.
Voilà, il vit sa vie au royaume des morts tant que tu l'as pas oublié. Par contre, l'oublie pas, mon gars. C'est horrible. Franchement, c'est horrible.
Ouais, non, je sais pas. Est-ce que c'est pire que. Je trouve ça moins horrible que la maman de Bambi est morte et elle va se faire bouffer par les oiseaux.
Attends, la maman de Bambi est morte ?
La maman de Bambi.
Alors, surtout bouffée par les oiseaux, c'est des oiseaux très chelous.
Non, mais bouffée par les corps, je sais pas, les sièges, j'en sais rien.
Et les vers de terre.
Elle va rentrer en état de putréfaction, hein, clairement. Donc, non, je sais pas.
Mais la morale n'est pas autour de ça. Alors que là, Coco, c'est vraiment la morale du truc. C'est genre le cœur de l'histoire est autour de ça, quoi.
La parole est à la défense, Marc.
non, moi je trouve juste que ça propose une autre version en fait de la mort, quoi, tout simplement, et qui soit plus joyeuse, plus positive, parce que le thème de base était quand même assez couillu, quoi, proposer la mort comme thème principal. Mm. Voilà, nous on associe ça à la peur de la mort, à la tristesse, à des choses vraiment très négatives, et ou très rationnel, justement, se dire ok, il est par terre, les vers de terre vont le bouffer, c'est fini, fini. Là, ça propose une version un petit peu plus positive et ça, ça limite, t'as envie d'être mort pour voir ce délire à un moment dans ta vie, tu vois. Tu fais ok, c'est pas mal. C'est pas
donc
mal
ça
ici.
Pousse les gens au suicide, génial, exactement. Vraiment, alors, bravo, Coco. Y a rien qui va.
Nico, c'est quoi du coup pour toi? Est-ce que t'as fait ton choix, Nico?
Non, mais j'ai trouvé une petite entourloupe. Je pense que mon préféré est Vice Versa, mais je pense que le meilleur est Wall-E.
Ok.
Ah.
Voilà. Mon préféré Vice Versa parce que c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est que c'est celui qui me parle le plus au cœur, tout simplement. En revanche, en tant que meilleur film, Wall-E repousse les limites. À l'époque, repousser les limites à l'époque, continue de repousser certaines limites, c'est de l'audace pure, Wall-E. C'est une histoire d'amour entre deux robots, c'est 30 minutes de film complètement muette, il n'y a pas un mot prononcé durant les 30 premières minutes de film, un changement de lieu total, de décor total pour le dernier acte, c'est même en termes d'écriture, c'est-à-dire qu'on est sur un héros qui fait uniquement son taf, qui est en fait sur un anti-héros qui à la fin triomphe par pure gentillesse, pas parce qu'il doit affronter quoi que ce soit. En fait, c'est un héros qui finalement n'évolue pas, qui se contente juste d'être gentil. Et pourtant, alors qu'on pourrait le trouver fade, et qui parle pas hein, aussi, rappelons-le, on pourrait le trouver fade, et c'est l'un des personnages les plus emblématiques de Pixar. La romance avec Eve, entre Wall-E et Eve, c'est d'une beauté. Ils arrivent à faire passer des émotions au travers d'un petit bouton bleu qui s'allume.
Extrêmement poétique. Est-ce que tu peux rappeler juste très
vite
l'histoire?
Pardon. Wall-E, en gros, ça se passe dans le futur. Les humains ont quitté la Terre parce que c'est devenu une poubelle. Et quelques robots, un robot, Wall-E donc, est sur Terre et son taf, c'est de nettoyer. En gros, son taf, c'est de nettoyer. C'est un tout petit robot. La Terre, c'est une poubelle géante. On sait que c'est vain. Mais voilà, son boulot, c'est de nettoyer. Et puis, et tous les jours, il fait ça. Tous les jours. Et puis, un jour, il rencontre... un autre robot donc qui s'appelle Eve, qui est un robot féminin. Et voilà, il va tomber amoureux et en fait comment il rencontre Eve, parce que en fait sur la planète Terre d'un seul coup apparaît une petite plante, alors que toutes les plantes ont disparu depuis des siècles, c'est pas exactement dit, on sait pas depuis combien de temps, mais voilà. Et s'ensuit donc une aventure où on comprend pourquoi les humains sont partis, où on va aller à la rencontre des humains et voilà. Et en fait c'est une histoire d'amour. C'est purement et simplement une histoire d'amour à la base, c'est-à-dire que toute l'action est déclenchée parce que Wall-E tombe amoureux, s'attache à Eve, exactement. Et en fait, plus on avance, plus c'est d'une richesse dingue, quoi. C'est d'une richesse dingue. Il y a un sous-texte, il y a un sous-sous-texte. L'animation, enfin, je la trouve absolument sublime. La musique est dingue.
C'est une boîte de conserve. Quoi,
Tu parlais tout à l'heure, faire naître des émotions avec une feuille qui pleure. Eve, c'est un iPod.
Ouais.
F, c'est un iPod et je sais pas comment ils ont fait. Je ne comprends pas. On parlait également du scénario, d'une bonne histoire. Je n'arrive pas à comprendre. Et c'est là tout le génie de la chose. C'est à quoi pourraient ressembler les pages du scénario des 30 premières minutes de Wall-E.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est ça passe par le montage et tout, mais en gros, c'est un robot qui nettoie des déchets. Comment tu crées de l'empathie avec ça? C'est un robot qui nettoie des déchets. On s'en fout.
Le petit cafard, par exemple, tu vois, c'est un truc. Tu vois qu'il a mis avec un cafard. Et tu comprends une relation qu'il y a entre eux. Et ça te fait tout de suite avoir une petite empathie avec lui.
Ouais.
Tu te dis, ah, il a un petit côté humain, en
fait.
Ça reprend le Save the Cat qu'on a illustré dans un des derniers épisodes du meilleur podcast.
Ouais, sur le meilleur mochin, je pense.
Ah, bah, totalement.
Exactement. Et du coup, le fait que Wall-E soit ami avec un cafard et l'épargne, alors le cafard est un truc qu'on considère comme horrible, qui lie d'amitié et qui soit cool avec cet animal-là, fait que ça crée de l'empathie directement.
Complètement. Et donc, c'est des petites astuces comme ça au fur et à mesure qui...
Et donc voilà, donc je pense que Wall-E est le meilleur Pixar, et je pense que dans 10 minutes ce sera également mon préféré. Mais voilà, c'est quelque chose de, et un tel niveau d'audace. Pour rappel, c'est Andrew Stanton qui a réalisé le film. Il est plutôt pas manchot, puisque il avait également fait Le Monde de Nemo.
Pas mal.
Et John Carter, mais bon, ça c'est un autre débat. Donc voilà, c'est quelque chose, je trouve, d'absolument prodigieux qui dépasse toutes les attentes, que ce soit par rapport aux téléspectateurs, par rapport à ce qu'on attend d'un film d'animation, à ce qu'on attend, même les codes basiques d'une histoire. C'est-à-dire, encore une fois, je dis, Wall-E C'est juste un héros, c'est juste un héros gentil qui vit une aventure parce qu'il est gentil, pas pour se transcender, pas du tout pour affronter.
On est hors du monomythe, quoi.
On est quasiment un peu, voilà, exactement, ouais, exactement.
On a un héros qui a pas d'objectif, en fait.
En fait, qui n'a pas d'objectif, si ce n'est celui d'être lui-même. Et ça peut paraître dit comme ça, ça peut paraître naze, ça peut paraître un peu cucu, certes. Et en fait, c'est splendide. Et je sais pas comment ils ont fait. Je sais pas comment ils ont fait.
C'est marrant parce que moi, j'avoue que j'ai pas vu l'histoire d'amour entre guillemets.
Ouais.
C'est-à-dire que pour moi, ça a été... et tout le monde m'a dit non, mais c'est de l'amour et tout machin. Mais moi, pour moi, je pensais qu'ils étaient des potes. Moi, j'ai toujours vu ça comme une histoire d'amitié.
Bah, c'est vraiment le mec mauvais qui regarde un porno. Qui... un thriller, pas si fou, hein. Tout le monde dit les pornos.
Non, mais tu vois, genre. Tu vois, pourquoi ça serait pas. Ça
et après tout, pourquoi pas ouais. Et ça changera au film.
Ça changera, ouais.
Ouais, moi j'avais l'impression que Wally. Non, mais je me suis fait un film, tu vois, du coup, dans un film du film. Je pensais que Wally était genre un peu amoureux, machin, mais qui était friendzoné. Tu vois ce que je veux dire?
Il l'est au début. Il est bien au début.
Mais lui est amoureux, pas elle. C'est une sorte d'amour dans le sens où lui va la suivre et il va sortir de son confort et son environnement familier qui est la planète.
Donc elle est amoureuse juste de lui pour elle. À la fin,
à la fin, on suppute qu'elle est amoureuse.
Elle réveille avec le petit coup de foudre, tu vois, qui reboot. On est quand même sur une métaphore de l'amour. Quoi.
Elle se bat à fond pour le refaire vivre à la fin, quand même.
Quel passage.
Ah, mec, il y a des meufs qui friendzone et qui se battent pour toi aussi. Hein.
Bon, non, mais ça peut être en effet.
T'es un peu trop intériorisé, Wally.
En effet, Eve réveille Wally avec un
coup de
foudre.
Vous êtes pas fait assez friendzone, les gars. Je pense que vraiment.
Et j'en profite d'ailleurs, puisqu'on parle de Wally, il y a tout un tas de mini. C'est pas des scènes coupées, c'est des mini courts-métrages en fait, qui sont disponibles sur l'édition Blu-ray, DVD aussi, j'imagine. Et en gros, qui mettent en scène dans le grand vaisseau, je vais essayer de pas spoiler, qui mettent en scène en fait des petits robots qui essayent de pourchasser Wally et leur échec. Génial. Et en fait, tout leur échec. Et c'est. Hilarant. C'est, je crois, 5 petites scènes de 2 minutes,
Burry,
même pas.
Je me souviens plus.
Celui qui nettoie tout.
Ouais.
Incroyable.
Ouais. Il y a lui, par exemple.
Il y a lui, et c'est hilarant. C'est vraiment hilarant. Voilà, donc je conseille également d'aller dans les bonus du DVD.
Et petit clin d'œil, il y a la scène, on a parlé du coup de cette scène où Eve est sur Terre avec Wally, et à un moment. Eve se met en hibernation, enfin un espèce de statue en veille, parce que du coup elle attend qu'on la cherche. Bref, et juste pour illustrer ce qu'on disait tout à l'heure sur le travail de Pixar sur vraiment les détails qu'on voit au troisième visionnage, je suis tombé dessus en préparant l'émission. Il y a un moment, une scène où il pleut, où Wally abrite Eve avec un parapluie, et ils se prennent la foudre. Ça dure quelques secondes, on le voit pas forcément à vitesse réelle, mais à ce moment-là, il y a le niveau de charge de la batterie de Wally qui est au niveau de plus faible juste avant la foudre, et dès que la foudre tombe, il est rechargé à bloc. Et ça, on peut pas le voir à vitesse réelle. Tu peux le voir sur un arrêt sur image ou quoi. Et encore une fois, c'est là où je trouve Pixar fou de juste incorporer des indices, vraiment, le travail que les gens ne verront, peut-être 1% des gens verront. Quoi. Et voilà, ça me faisait penser à ça et ça rejoint ce que je trouve dingue chez Pixar.
Il y a ça chez les Mignons. Il y a des micro-détails planqués, des trucs...
Ouais, mais c'est des blagues, en fait.
Ah, c'est des blagues d'animateurs.
C'est ça, ouais.
Comment?
C'est que...
Tu peux le dire ou pas?
Bah, y a un truc que je peux dire par exemple, parce que c'est même pas dans le film. Dans moi chez Méchant 3, il y a une scène qui était coupée et moi je m'occupais de la crowd, donc voilà tous les persos qui sont derrière. Et y a des musiciens qui jouent au premier plan et moi donc j'animais les gens qui sont derrière. Et parmi les gens qui étaient derrière, il y avait un cochon. Et le cochon, bah, il renifle, tu vois, par terre jusqu'à se relever vers le cul d'un musicien et il se met à avoir une tête d'effroi, tu vois. donc là, on montre au réalisateur, donc nous on se marre un peu entre nous, tu vois, et le réal il fait, c'est parce qu'il a pété là? Je fais ouais, il fait, génial, tu gardes ça. Et voilà, c'est que des petites choses comme ça, où tu peux t'amuser et derrière...
On est bien d'accord que quand tu mets ça dans le film, t'es obligé de le dire au réal.
Ouais.
Où y a des... Non mais il y a des animateurs qui font ça, qui disent rien.
En douce, non, ça se voit en fait, parce que lui il analyse tout en fait, c'est son but de faire...
Ouais, j'avoue, lui il voit plan par plan, donc...
Non mais c'est la
perso
fameuse histoire
perso,
de Bernard...
Il va regarder quoi.
C'est la fameuse histoire des nichons dans Bernard et Bianca.
Oui.
Voilà, donc on sait toujours pas d'où ça vient, de qui ça vient, je crois pas, mais...
C'est ça, donc en tout cas, ouais, pour y revenir, ouais, il y a des détails, mais... À relecture, mais c'est souvent des blagues et on est moins dans un truc aussi profond que ça.
Autoréférencé et profond, ouais.
Ouais, c'est ça.
Et toi, Tom? C'est quoi, pour toi, le meilleur Pixar?
Alors, comme vous tous, hein, moi, ça a été, à part pour Marc, qui, a priori, avait un choix qui était assez évident comparé à nous, j'ai l'impression. Moi, ça a été une vraie lutte aussi, je l'ai dit dans l'édit Tom, avec un peu d'humour, mais vraiment, Pixar, c'est une pierre angulaire de tout ce que j'ai aimé ressentir. Et voilà,
tu m'en parles souvent, Tom. Voilà, Tom est très
très
pizza,
important, voilà. Ouais, beaucoup.
Et ce sujet d'émission est venu très vite quand on a créé le meilleur podcast.
Ouais, c'était un petit kiff aussi de le faire, on va pas se le cacher. Et ouais, et Toy Story est clairement un des films qui m'a le plus marqué dans ma vie, et je pense que c'est mon Pixar préféré, mais j'ai pas des raisons et des arguments qui font que je pense que c'est le meilleur Pixar. Pour moi, c'est celui qui me touche le plus, comme Joe, t'as un peu parlé. Nico, pardon, excuse-moi.
Joe, c'est l'autre.
Ouais, je sais.
On l'embrasse. Hein, mais...
On l'embrasse. Nico, t'as dit pareil que Vice Versa était celui qui touchait le plus.
Ouais.
Pour moi, le meilleur Pixar, c'est Monstres et Compagnie.
Oh,
ah ouais. Moi, c'était mon deuxième.
Ah ouais, ouais. Sérieux.
Wow.
C'est Monstres et Compagnie, pourquoi ?
C'est même pas dans mon top 5, je pense.
Ouais,
j'ai
moi non plus.
Plusieurs
ouais.
cordes à mon arc. Déjà, tu parlais de concept avec Toy Story qui était fort. Pour moi, Monstres et Compagnie, c'est la quintessence du concept. C'est-à-dire qu'on s'est dit, ok, quand on est petit, on a peur qu'il y ait un monstre dans le placard. Ben, on va créer toute l'histoire des monstres dans le placard, justement, et on va leur créer un univers qui leur est propre, etc. etc. Je trouve que l'idée est folle. Je trouve que ça défonce. Monstres et Compagnie, là où je trouve extrêmement bien réussi, c'est que on arrive à créer un univers de toutes pièces qui est hyper cohérent, avec énormément de tenants et d'aboutissants qui sont effectivement nés sur cette idée très basique de se dire « Ok, quelle est la vie du monstre dans le placard ?» Et je trouve que le fait de créer un univers où les monstres en fait ont autant peur des humains que les humains ont peur des monstres, que la porte soit juste ce lien entre les deux univers, mais que eux du coup, toute leur industrie, leur économie et donc leur vie repose sur le cri des enfants qu'ils effraient, je trouve que c'est fou en termes de prouesse scénaristique et que en plus dans la manière dont c'est raconté, ça se met en place très naturellement et on n'a même pas le temps de se poser les questions, qu'ils arrivent à créer un univers hyper dense et hyper bien établi en très peu de temps. Je trouve que la prouesse est assez folle. Et ce que je trouve dingue dans le scénario, clairement, c'est le scénario qui m'a fait pencher pour Monstres et Compagnie. De base, c'est mon argument principal. Ce que je trouve assez ouf, c'est que l'histoire de se dire que en fait, les gamins, ils crient quand ils ont peur, que ça remplit des bouteilles d'énergie, que c'est ça qui permet de créer l'électricité dans l'univers des monstres. Et qu'il y a cette satire de se dire on va pousser les terreurs d'élite, c'est-à-dire les monstres qui font crier les enfants, à être de plus en plus flippants pour les faire crier plus fort, pour être encore plus d'énergie, etc. Il y a un côté un peu critique du capitalisme que je trouve assez intéressante. Et ça aborde cette dimension-là, quoi. Et sans spoiler, on se rend compte à la fin que l'énergie, on peut l'avoir d'une autre manière qui est beaucoup plus cool. Et au final...
qui marche bien.
Voilà, sans pour autant forcer les gens à être concurrents et tout. Je trouve ça dingue. Le système des portes, je trouve cette invention incroyable de dire que juste tu ramènes les portes, une porte ça t'amène dans une maison, que tu peux voyager de maison en maison, de porte en porte et tout, et notamment la course-poursuite de fin est dingue. Et je trouve que les personnages sont trop stylés, quoi. L'humour est présent tout le temps, le film est hyper rythmé, hyper dynamique. Le binôme Sully et Bob Razowski fonctionne hyper bien. Boo est génial, tu parlais de personnages quasiment muets, Boo est quasiment muette, tu t'y attaches directement, son rapport avec Sully il est dingue. Moi j'ai eu ma petite larmichette à la fin quand ils sont les adieux, etc.
Non, et puis ce qui est bien avec Boo, c'est qu'à ce moment là ils avaient déjà commencé à résoudre leur problème de ce qu'on appelle c'est la vallée de l'étrange, la vallée dérangeante, parce que les humains dans Toy Story sont horribles,
c'est
vraiment hideux. Alors
c'est
autant ils sont un peu flippants pas forcément quand c'est voulu. Donc et là au moins à partir de Monstres et Compagnie, ils avaient commencé à résoudre ce problème.
Carrément.
Et voilà, et je trouve que le fait que Boo soit considéré au début comme la pire chose qui puisse rentrer dans le monde des monstres, c'est un humain, et qu'au final, ce truc de rejet de l'autre qu'on comprend pas, mais en fait, on se rend compte qu'on l'aime, que ça marche bien, et le personnage de Razowski qui est hyper flippé de tout, qui est contrôle fric sur tout, et qui au final décide de prendre énormément de risques pour son amitié avec Sully, et parce qu'il pense que c'est une bonne chose de s'entendre bien avec les humains, etc. Enfin, je trouve que tous ces messages-là et ces combats-là, ce que je disais au début, final, mais ça commode hyper bien ensemble, rend un truc hyper cohérent et le film est dingue, quoi. Tu passes par toutes les émotions.
C'est mieux écrit.
Je trouve qu'en termes d'écriture, c'est fou, quoi.
Revoyez Vice Versa.
Vice Versa est très cool. Vice Versa est hyper cool.
Et moi, ce qui me manque dans Vice Versa, c'est la profondeur de l'univers, en fait. Là où Monstres et Compagnie, ça n'a pas limite. Vice Versa, le fait que toute l'action se passe dans un cerveau, j'adore Vice Versa. Mais du coup, tu te sens, même si effectivement le cerveau, il y a des îles qui représentent différents types de pensées, etc., etc. Déjà, je trouve qu'on a du mal à se repérer sur effectivement cette taille et les distances.
Et puis tout est possible sans cerveau.
Ouais.
Tu vois, genre ça, ça perd de son intérêt, je trouve.
Alors non, justement, je suis pas d'accord avec toi. Tout est possible, mais tout est très concret. Ils ont réussi à rendre ça très concret.
Il faut le faire bien, ouais.
Toutes les, voilà, toutes, justement, les ponts, les univers qui changent au fur et à mesure qu'elle grandit, les boules qui représentent les souvenirs, les nettoyeurs, le passage des nettoyeurs.
Danser triple.
Oh là là, le passage des nettoyeurs. Donc pour ceux qui ont pas, ce n'est pas un spoiler, donc je dis, en fait, tous nos souvenirs sont dans des boules et d'une certaine couleur en fonction de souvenirs tristes, souvenirs heureux. Et évidemment, à l'âge qu'a la gamine, bah, il n'y a que des souvenirs heureux. Sauf qu'à un moment, il y a des boules qui deviennent grises. C'est les souvenirs, en gros, dont on n'a plus besoin. Et donc, il y a des nettoyeurs qui passent. Et ils disent, tiens, est-ce qu'on a besoin... allez, capitale du Danemark, est-ce qu'on a besoin? Non, tu jettes. Et donc, ce qui explique concrètement pourquoi on a pu savoir des choses et on les oublie. Et par contre, à un moment, ils décident de laisser la chanson d'une pub pour dentifrice. Ouais. Je crois que c'est ça. Et celle-ci, allez, on la laisse. Et la vanne revient. Et tiens,
on l'a armé d'ailleurs. C'est parti.
Voilà, exactement. Ce qui explique comment, de temps en temps, là par exemple, au milieu d'un enregistrement de podcast, je vais avoir en tête si je vais bien, c'est Juvamine. Alors que ça n'a aucun intérêt pour ma construction mentale et personnelle.
En plus, franchement, je trouve que Vice Versa et même Coco, les personnages, je sais pas, moi je me suis pas vraiment attaché quoi.
Alors moi
que,
aussi, ils sont moins forts.
Sully ou Bob.
Ah bah pour le coup, ouais, moi c'est un truc qui m'a.
Enfin, je les kiffe quoi.
Qui m'a vraiment touché parce que moi j'ai ce sentiment là aussi. Moi j'étais le seul gars de ma famille à dessiner, tu vois.
Ouais.
Donc j'avais des frères, ils montaient des bobigettes et compagnie, et puis moi je dessinais. Donc j'avais toujours ce petit sentiment de me dire c'est normal en vrai ou pas, tu vois, t'es en classe, tout le monde écoute, toi tu dessines, c'est quoi ce truc.
Alors que moi, dans ce que je kiffe beaucoup dans Monstres & Compagnie, c'est le personnage de Bob qui est je ne suis pas fait pour faire peur, je pars de très très loin, mais avec le travail je vais y arriver. Et
surtout je me suis attribué un rôle qui me permet d'être bon même si c'est pas ce que je voulais vraiment faire. C'est les coachs de Sully, tu vois, au final.
Ouais
et non, il est dingue.
Ouais,
puis il est tellement marrant. Enfin, moi, l'humour pur de Bob Rozowski, tu vois, là où vice versa, les personnages sont cool, mais j'ai jamais rigolé, tu vois. Ce qui est marrant, c'est les idées de ce qui se passe dans les cerveaux des autres, etc. Ouais, le délire est trop cool, mais j'ai pas d'affect au personnage.
Moi, je pense que ce qui me touche moins, ce qui peut-être me touche moins, c'est qu'en fait, c'est les peluches Bob Rozowski, c'est les. C'est tout. Non, c'est-à-dire que, en fait, on en a tellement bouffé.
Ça a démystifié, en fait.
Ouais, un peu. La suite est naze. La suite était naze, j'ai trouvé.
Non, je suis
et je trouve que mine de rien, à force de les voir partout, il y a peut-être une part de démystification, ouais. Alors qu'on n'a pas vu de peluche de peur dans Vice Versa.
Parce qu'on n'a pas envie d'avoir de peluche de
peur. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça.
Elle est mignonne.
Ouais, elle est mignonne, mais tu te dis j'ai envie que ce soit mes potes, quoi. Tu vois, moi, Bob Rozowski.
Moi, si je pouvais avoir une figurine Bob Rozowski, je la prends direct.
Ouais.
Ouais, mais c'est ça, et tant mieux, mais moi je pense que c'est une des raisons pour lesquelles justement ce film n'entre même pas dans mon top 5, c'est-à-dire que non mais attends, top 5, attends,
non,
c'est
compliqué, c'est hyper dur.
Attendez, là-haut, Wall-E, Vice Versa, Toy Story 2, Toy Story 3, boum, top 5.
Et Wall-E, t'as pas été saoulé par le nombre de figurines Wall-E et tout?
J'avais pas vu tant que ça.
Ah ouais?
Mais c'est peut-être une question de date et aussi de petits frères, petites sœurs.
D'ailleurs, Nico, pour faire un pas vers toi, c'est Pete Docter qui réalise à la fois Vice Versa et Monstres et compagnie.
Absolument.
Et là-haut. C'est le même mec qui va reprendre sûrement la suite de la 7h.
Le mec est fort.
Le nouveau mec qui va être le film de Pixar. Les amis, le temps de digérer un petit peu tous ces arguments et ces idées qu'on a échangées, je vais proposer un petit vrai ou faux.
Du coup, moi, je change.
Tu changes ?
Moi, je pense que...
On n'en est pas là. On commence à mettre la pression parce qu'il va y avoir des alliances qui vont se faire aussi.
Parce qu'on n'a pas choisi le meilleur, on est d'accord.
Pas encore. On va revenir, on va finaliser ce débat.
Pour partir du podcast avec un seul film.
Ouais, c'est ça le but.
Putain, c'est ça le but.
Oh la vache, on parle de l'ordre.
Ouais, mais après, ça va se jouer au vote. Enfin, voilà, vous inquiétez pas.
Généralement, il y a rarement un consensus.
Il y a tout le public qui va voter, c'est ça.
Exactement.
D'accord.
Ouais.
Okay.
Je vais proposer un petit.
Faites du bruit !
Vrai ou faux ?
Ouais, je voulais vous proposer un petit vrai ou faux centré sur les parcs Disneyland.
Allez.
C'est un jeu de vitesse ?
Non, c'est juste, je vais vous donner des facts ou des anecdotes sur les parcs Disneyland et vous devez dire si pour vous ils sont vrais ou ils sont faux.
Okay.
Voilà. À Disney, il est interdit d'amener des chevaux.
Disney, tous les Disney ?
Ouais.
Interdit d'amener des chevaux ?
Ouais.
Alors je suis pas sûr de comprendre la question. Moi, si je veux y aller à cheval, j'ai pas le droit.
Est-ce que les chevaux sont interdits à Disney ?
Alors, ça paraît logique que oui, donc j'ai envie de dire non. T'as le droit d'aller à cheval.
C'est interdit aux animaux de compagnie, Disney.
Mais pas les chevaux.
Sauf aux animaux d'assistance approuvés, c'est-à-dire les chiens et les chevaux miniatures.
Ah, les poneys, quoi.
Exactement. C'est-à-dire que si, par exemple, vous êtes atteint de cécité, vous pouvez avoir un chien, mais également un cheval miniature.
Petit poney.
Et vous pouvez ramener votre cheval miniature à Disney.
D'accord.
Voilà, je trouve ça assez classe.
Wow. Oui, non, mais on est d'accord, je peux pas y aller avec mon pur sang arabe. Non. Voilà, non, c'est ça.
Est-ce qu'on peut venir avec son chat à Disney?
Bah non, tu peux le dire.
Non. Mais est-ce que les chats sont interdits à Disney?
Bah tu viens de dire que oui.
Et non, les chats ne sont pas interdits à Disney non plus. Mais il s'agit de chats sauvages adoptés par les équipes de Disney.
Ah, d'accord.
C'est vrai qu'elle était assez mal formulée.
T'as très mal formulé ta question.
Très mal formulé. J'ai très mal
formulé. Ce point soit accordé à tout le monde.
Ouais, ce point accordé à tout le monde. Non, ce qui est assez ouf, c'est que, en fait, pour éviter qu'il y ait des rongeurs à Disney, il y a une colonie de chats errants et sauvages qui avait commencé à être présente parce que c'était un gros spot à souris. Et les équipes ont commencé à apprivoiser ces chats, à les castrer, etc. Et ils les lâchent la nuit pour réguler les rongeurs potentiels à Disney et qu'il n'y en ait pas la journée.
Pas de souris à Disney, quoi. Quelle ironie.
Ouais.
Je trouve ça assez ouf. Dans les parcs Disney, il y a simultanément 6 Mickey qui tournent dans tout le parc.
Ouais, ça doit être vrai ça.
C'est faux ça.
Non, faux.
Non, ça doit être vrai.
Faux. C'est faux.
Ah, y en a qu'un,
seul à chaque fois pour c'est être sûr qu'il n'y ait pas des gamins qui puissent en voir deux en très peu de temps, etc. Ouais. Vraiment garder le fait de il est vrai, il n'y en a qu'un seul. Tous les châteaux sont de tous les Disneyland du monde sont roses.
Les châteaux sont roses.
Ouais.
Il est rose celui de Disneyland Paris.
Je crois pas. Rose pâle. C'est bleu.
Il est rose.
Ah,
rose
pâle. Ouais. Tous les châteaux sont roses.
Ouais.
J'ai envie de dire faux.
Mais moi je dirais vrai.
Je dis faux.
Pour l'uniformité du truc. Quoi.
C'est faux. Parce que ce qui est assez ouf, c'est qu'en fait, ils ont adapté les teintes du château en fonction du ciel présent dans les pays.
Wow.
Genre à Paris, comme le temps est plutôt gris, globalement, ils ont fait un ciel à un château rose pour que ça ressorte plutôt bien.
Alors qu'aux États-Unis, le ciel est rouge, du coup.
Non, mais en Floride, le château est gris de base, c'est la couleur de base, parce qu'il fait bleu tout le temps en fait.
Ouais.
Et du coup, ils n'avaient pas besoin. C'est à Paris, ils se sont dit, ok, faut que ça ressorte plus. Si on fait un château gris sur un ciel gris, ça sera beaucoup moins magique. Donc, on le fait rose pour qu'il ressorte davantage.
Putain, en Irlande, il y a rose fluo, quoi.
Des paillettes, rose à paillettes.
Il est gilet jaune directement.
Il est gilet jaune avec des néons, quoi.
Directement. C'est Kodak qui a designé le béton de Main Street.
Attends, quoi c'est quoi Main Street?
Ouais,
c'est la Grande Avenue.
Ah, si, c'est la Grande Avenue devant
c'est la Grande Avenue Disney.
Paris.
Euro Disney. C'est Kodak qui a designé
Kodak. Ouais.
Euro Disney. Alors attends, Euro Disney, plus personne dit ça
non,
depuis 95.
Hein,
non. Et d'ailleurs, c'est
ça a été changé depuis Disneyland Paris.
Et le nom a été changé depuis que la monnaie de l'euro est apparue. C'était pas prévu avant. Ils se sont dit, ok, on n'a pas envie que la monnaie d'euro soit associée trop à ça, donc on va l'appeler Disneyland Paris.
Sinon, ce serait toujours ça. Quoi.
Ah, c'est lié à ça.
Ouais.
D'accord.
Et sinon, la réponse est oui. C'est Kodak qui a designé.
La réponse est oui.
Ils ont fait quoi? Ils ont designé quoi?
Ils ont choisi la couleur du béton pour qu'il soit toujours joli sur les photos des visiteurs, peu importe le temps et peu importe quoi que ce soit.
Ok.
Énorme.
C'est assez ouf.
J'ai quand même vu 2-3 photos moches de Disneyland Paris, mais ok.
Dans les boutiques des parcs Disney, on peut acheter des chocolats, des bonbons et des chewing-gums.
Faux.
Faux, pas de chewing-gum.
C'est faux, pas de chewing-gum.
Bien joué.
Effectivement, tout sauf les chewing-gums. À Disney, on peut se restaurer et également se faire couper la barbe.
Vrai.
C'est vrai. Il y a un véritable barbier dans le parc, en hommage au père de Walt Disney qui était barbier. Et du coup, il y a un vrai barbier.
Disney toujours. Disney Paris, je veux dire.
Dans tous les Disney.
Le barbier, meilleur taf du monde, il doit passer sa journée à lire. Personne se fait tailler la barbe.
Je pense que personne n'y pense.
Disneyland.
Clairement.
T'as autre chose à foutre. Tu fais déjà que 3 heures pour Space Mountain.
C'est clair.
Bon, bah, je reviens. Je vais me faire tailler la moustache.
Voilà, ces petites anecdotes.
C'est trop bien.
Ces petites anecdotes. Voilà, sur Disney. Je vous propose, cher ami, de finaliser ce débat et voter pour le meilleur Disney en fonction de ce qu'on s'est dit, les points de vue qu'on a échangés, etc. Le meilleur Pixar, pardon, excusez-moi.
Toi, Tom, t'es prêt à changer ou pas?
Je suis maître de la parole, du coup.
Entre Toy Story et Monstres et Compagnie.
Moi, je suis prêt à vous rejoindre sur Toy Story si vous partez sur Toy Story. Bah non, mais c'est le choix évident, c'est celui qui a tout commencé, c'est celui qui a tout débuté.
Ouais,
c'est un peu la matrice sur laquelle ils ont continué de créer après.
Oui, moi.
Finalement, donc.
Moi, tu me demandes ça aussi, sérieux, c'est ma corde sensible. Je pourrais jamais dire non, je le connais pas.
Il y a la nostalgie qui joue aussi énormément. On en parlait tout à l'heure, on peut pas. Ouais.
Non, mais c'est le choix du cœur.
Oui, c'est le choix.
C'est ça.
C'est comme
bien qu'on peut pas les raisonner, ils choisissent Monstres et Compagnie.
C'est leur émission en même temps, ça se finit toujours comme ça. Voilà.
Mais Cyrus a la faculté à choisir souvent aussi le truc le plus fort. Ça me rappelle le meilleur monstre où t'avais pris le diable pour gagner le débat.
Truc le plus puissant.
Est-ce qu'on n'y créerait pas Internet? Est-ce qu'on choisirait pas Cars 2?
Et là,
on s'entend tous sur Cars 2, voire Planes. Je suis désolé,
on
personne
un
peut
nouveau
parler
mouvement.
De
Planes. Non, mais en vrai, je reste sur Monstres et Compagnie parce que je pense que c'est le mieux travaillé en termes de scénario. Mais voilà, si chacun reste campé sur ses positions, je suis prêt à faire le pas vers Toy Story qui était mon choix numéro 1.
Je suis prêt à faire le pas vers Toy Story aussi.
Moi, je peux faire le pas sur Toy Story sous la menace. sinon, un Wally, je rejoindrai. Un vice-versa, je rejoindrai. Tu vois, c'est...
Donc, je veux bien revenir sur Wally. Mais, comment vous choisissez les meilleurs trucs dans votre podcast là?
Bah, on fait comme ça.
On fait comme ça. Il y a des consensus, on peut le faire. Après, il y a déjà eu des grosses égalités. Il y a eu deux épisodes où il y a eu vraiment celui du meilleur méchant et celui du meilleur sportif. Où on a eu deux
meilleurs sportifs.
Ouais.
Tout sport confondu, vous avez choisi sport confondu.
C'est qui, les finalistes étaient Ali et Jordan.
Ali et Jordan, ok.
Et ça s'est fait sur un vote réseaux sociaux.
Vous avez fait tous les sports.
Et c'est Jordan qui a gagné.
Et l'idée, c'est quoi? C'est d'être le meilleur dans son sport à soi ou le meilleur.
Je t'invite à écouter les pour, pour voir tout le débat qu'on a mené là-dessus.
Finalement, avec Pixar, on est plutôt cool. Tu vois, le choix,
les points de comparaison sont
entre 3 à 4 trucs.
Du coup, vous tournez sur Wally ou est-ce qu'on décide de tout aller sur Toy Story?
On peut peut-être se faire un Wally contre Monstre et Compagnie.
Contre Toy Story,
j'ai l'impression.
Toy Story plus.
Wally et Toy Story, ça représente bien Pixar, je trouve.
C'est vrai.
Au final.
Ouais.
Mais là où c'est dur, c'est Toy Story, il y en a 3. Et Wally, il y en a qu'un. Et du coup, Toy Story, t'as tendance un peu à mélanger les 3, je pense, si tu votes. Enfin,
la saga Toy Story.
Puis le 3 est tellement énorme aussi.
Non, mais attends, mais si on la joue.
Si c'est franchise, Toy Story, vite quoi.
Si on la joue, genre, clairement posée, genre, tu prends une feuille et un stylo, j'ai l'impression que Toy Story gagne. Parce que, j'explique mon point. Toi, c'est Coco, choix 2, Wally.
Wally, ouais, carrément.
Toi, c'est Wally.
Choix 2. Ouais.
Choix 2,
Wally, vice versa. Et choix 2, t'es prêt à aller vers Toy Story. Toi, c'est Monstre et Compagnie et t'es prêt à aller vers Toy Story. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Si on comptabilise les points de classement.
Il était épicier dans une vie intérieure.
Non, mais si on comptabilise les points de classement de tout le monde,
je suis d'accord avec
j'ai l'impression que Toy Story gagne.
Je suis d'accord
avec toi. C'est possible.
Après, je dis ça comme ça.
Après,
mais toi, Marc, tu voteras jamais Toy Story.
Si, je disais tout à l'heure. Si, carrément, mais pour un film nostalgique, pour ce truc-là, mais pas pour. Pas pour meilleur Pixar, c'est dur en fait à dire.
J'ai une solution.
C'est dur à dire.
Vu que, a priori, tous les Pixar sont reliés entre eux.
Oui.
Tous les Pixar sont dans le même univers. Est-ce qu'on pourrait pas dire la saga
vrai.
Pixar
c'est le en touche.
Est-ce que le meilleur film, c'est pas la saga Pixar?
Généralement, on évite de botter en touche.
Oui, on botte pas en touche.
Ah, merde. Ouais.
Est-ce qu'il y a un consensus qui dégage sur Toy Story ou pas?
Après, j'ai pas envie de forcer le truc, tu vois.
Non, mais je.
Moi, je suis prêt. Pour tout un tas de raisons, ça a du sens.
Du coup, je pense que c'est Toy Story qui fait le consensus.
Allez,
bravo Toy Story. Je suis un peu content.
Ouais, pareil, grosse pensée.
Et puis, c'est vraiment l'hommage qui lui manquait à ce film.
Ouais, c'est vrai, il a pas eu reconnu.
Ouais, il a pas eu assez de récompenses.
On est sur un choix indé, quoi. C'est cool.
Clairement. Merci beaucoup, Nico et Marc, d'être venus.
Merci à vous. Merci à vous.
C'était un plaisir. Nico, où est-ce qu'on te suit? Où est-ce qu'on peut suivre ton travail?
Sur MCM, pour ceux qui n'ont pas MCM, sur la page Facebook d'MCM, une nouvelle vidéo tous les jours, une petite vidéo de 3 minutes, où avec mon compère Joe, on parle donc de pop culture au sens large. Et puis Rockerama, rockerama.com, donc Rockerama c'est un site web, mais c'est aussi des documentaires et des bouquins, des livres. Donc voilà, je vous encourage à aller jeter un œil.
Ça défonce.
Et voilà, et sinon Twitter, hein, Nico Pratt.
C'est stylé, une quotidienne et tout sur la pop culture. C'est
moi, c'est marrant, c'est on s'amuse cool. bien. Ouais. On s'amuse bien.
Merci d'avoir pris le temps.
Mais merci
d'être
à vous,
là.
Merci à vous, et puis merci d'avoir choisi Wally comme le meilleur.
Et toi, Marc, où est-ce qu'on te retrouve?
Moi, on me retrouve professionnellement
au
sur
cinéma,
les films, hein,
sur le grand écran.
Exactement. Donc, dans Comme des bêtes 2, là, au mois de juin, il va sortir. Et après, je vais aller sur Sing.
Quel plan
2.
T'as fait pour que quand on voit le film, on se dise ah, ça c'est
le 12.
On applaudisse.
Le 12, ça marche.
Alors, j'ai juste une petite question.
Ouais, dis-moi.
T'es encore ému quand tu vois ton nom au générique d'un film ou maintenant c'est devenu...
Non, c'est toujours cool, mais après, tu fais ton taf, quoi. Donc, je veux dire, c'est pas non plus...
T'attends ton nom?
Tu regardes,
ouais.
Normal, normal.
Tu regardes.
Normal.
Moi, je fais une capture, je la mets en fond d'écran partout.
Non, mais t'imagines, tu vas en date et tout. Non, on reste le générique. Non, on reste.
Je me suis toujours dit qu'un de mes kiffs, un jour, ce serait d'avoir mon nom au générique d'un film. Pour une raison ou une autre, je m'en fous. Mais me dire que j'ai mon nom. C'était quoi, toi, le premier film où t'as eu ton nom générique?
Le premier. C'était Moi, je suis méchant 3.
D'accord.
Ouais,
stylé.
Plutôt cool,
stylé.
Ouais.
C'est plutôt cool.
Du coup, voilà, au cinéma, et puis sinon sur mon Instagram, Marco Boy, où je fais du dessin. Donc voilà, mon petit monde artistique.
Hyper cool, je vous conseille aussi.
Donc, Nico Pratt, c'est NICOPRAT.
Absolument.
Et Marco Boy
MARCOWBOY.
Tous les liens dans la description.
Yes, oui, et nous, Tom, où est-ce qu'on se retrouve?
On se retrouve jeudi prochain.
Allez, pourquoi? Mais pourquoi on se retrouverait jeudi
parce
prochain?
Parce qu'il y a une nouvelle émission. Est-ce qu'on tease ou pas? On fait jamais. Est-ce
meilleur
qu'on tease
quoi
un peu?
Ah ouais,
meilleur
quoi?
On dit savoir les invités.
Allez, tu veux dire les invités ou le sujet?
C'est toi qui choisis.
Tout.
Dites le
on
sujet.
Va dire les invités.
On dit les invités.
Ouais.
Oh non.
T'en dis un, je dis l'autre.
Dites le sujet, on a envie de participer.
Ce sera deux invités qui sont déjà venus ouais. dans un épisode. On recevra Panayotis Pasco
et oh, Anis Rally. Ouais. Voilà.
Ah, ouais. Meilleur humoriste.
Non.
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 Mais voilà. Allez, rendez-vous jeudi prochain pour savoir de quoi on va parler.
Ça marche.
On se quitte en chanson.
Bien sûr.
3, 4.
Simply the best. Town, 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 town.
Si vous écoutez encore, c'est que vous avez peut-être bien aimé ce podcast, alors merci.
Ouais, merci beaucoup, et pour nous aider à le faire connaître et à le faire grandir, vous pouvez faire plusieurs trucs.
Alors déjà, vous abonnez au meilleur podcast sur vos applis de podcast. Et oui, j'ai dit beaucoup de fois podcast.
Il y a un autre truc important, c'est le noter 5 étoiles et mettre un petit commentaire sur Apple Podcast.
Ouais, ça nous aiderait beaucoup pour le référencement et pour le faire découvrir à d'autres personnes.
Et enfin, vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne louper aucun épisode, les liens sont en description.
Et au passage, on remercie Nouvelles Écoutes qui a coproduit cet épisode.
À jeudi.
À jeudi prochain.
Simply the best. Tain, 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 tain.